IDFM Radio, le média valdoisien.
IDFM Radio, il est l'heure maintenant d'accueillir votre invité du jour, un romancier valdoisien depuis quelques années, depuis 2003 plus exactement. Nous sommes avec Brice Nadin. Bonjour, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler peut-être aussi des nouvelles technologies, non ? Ça fait partie de votre vie pendant plus de 25 ans.
C'est mon activité principale, oui, bonjour.
Donc aujourd'hui, vous continuez en tout cas à travailler dans ce secteur-là.
Ouais,
en fait, et depuis 2019, donc vous écrivez en gros. On va parler de tout ça, on va survoler un petit peu votre carrière en quelques lignes sur IDFM Radio.
Très bien, oui, effectivement, j'ai deux vies parallèles. Je suis consultant en nouvelles technologies depuis bien longtemps maintenant, mais je développe une passion pour l'écriture depuis plusieurs années également. Et cette passion, en fait, a éclos au travers d'un premier roman qui est sorti en 2019. Mais c'était le fruit d'une longue maturation, puisqu'on n'écrit pas un roman comme ça. Et moi, en ce qui me concerne, c'était 10 ans de travail autour du Moyen-Âge et autour de ma passion pour l'écriture.
Vous avez réussi à lier les deux.
Oui, tout à fait.
À un moment donné précis de votre vie.
Ouais, je le fais toujours. Non, en fait, ça
s'est imposé. C'était calculé ou pas ?
Pas du tout. Ça s'est imposé. Je pense qu'il arrive un moment où, quand vous rentrez dans l'âge, vous avez besoin aussi de faire autre chose que ce que vous avez fait professionnellement. Et pour moi, cet échappatoire, cet épanouissement, c'était l'écriture, c'était le roman, c'était l'évasion, c'était l'apprentissage au travers du roman, puisque un romancier, c'est d'abord quelqu'un qui apprend en se documentant et en écrivant.
Vous êtes un peu journaliste finalement.
Oui, il y a
un peu agent de police aussi, enquêteur. Et
vous avez beaucoup de journalistes qui sont d'excellents romanciers.
En tout cas, ça met du temps aussi de faire des recherches, de travailler peut-être aussi avec d'autres personnes pour pas des fois écrire ou déformer.
Alors en fait, vous travaillez au travers des gens que vous rencontrez et des atmosphères que vous allez chercher. Donc un romancier, pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui voyage, qui doit aller sur les lieux qu'il cherche à retranscrire. Maintenant, alors je le sais avec les années, mais ça, au départ c'était pas posé comme ça. Un roman, c'est d'abord une atmosphère. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des bons personnages, une bonne intrigue, quelque chose qui s'enchaîne bien, mais ce qui fait la différence, c'est d'abord l'atmosphère qui se dégage de vos pages. Et l'atmosphère, il faut aller la chercher sur place. Alors moi, en l'occurrence, j'écris sur des lieux précis. Mon premier roman a pour cadre l'abbaye de Cluny, donc on est en Bourgogne, la Bourgogne Sud, au XIe siècle. Donc il y a deux paramètres à prendre en compte, c'est la localisation et puis aussi l'époque. Donc il faut se documenter sur les deux.
Ah, c'est pour ça que vous êtes référencé du coup au musée de Cluny.
Tout à fait, un musée du Moyen-Âge à Paris. Alors ça, c'est une de mes grandes fiertés. C'est assez récent, c'est depuis février 2025. Mais c'est l'aboutissement de ce premier roman, donc vous voyez, 5 ans après. Il a été lu, en fait, par les libraires du musée du Moyen-Âge à Paris. Et donc depuis, il est référencé par les monuments nationaux. Et donc du coup, il est même au Louvre maintenant, la librairie du Louvre, depuis 2 mois, dans les sections Histoire et Moyen-Âge.
C'est une belle fierté.
Oui, tout à fait.
De pouvoir accéder à un musée, de pouvoir être exposé aussi un peu partout, finalement.
Alors, exposé un peu partout, oui. Alors, il est dans les grandes librairies.
Oui, après, on peut le commander de toute façon, normalement, en bas de chez soi. Même s'il l'a pas directement, le libraire, il le commande.
Alors, il y a beaucoup de librairies dans le Val-d'Oise qui me connaissent bien, puisque maintenant je suis un peu l'auteur local avec d'autres. Donc il est notamment référencé au Grand Cercle, qui est notre principale librairie
valdoisienne,
à Éragny-sur-Oise.
Peut-être Cultura Franconville aussi.
Alors Cultura, j'ai fait plusieurs dédicaces, mais ils sont sur commande en fait. Ils ont une politique différente. Je suis référencé en direct chez Cultura.
Je crois qu'il y a une Fnac aussi à Cergy.
Alors Fnac à Herblay.
À Herblay.
Et là aussi, grande fierté, j'ai mon nom sur les rayonnages, donc au même titre que d'autres auteurs beaucoup plus connus. Et donc, en fait, mes ouvrages, ils sont suivis parce qu'il y a beaucoup de demandes, puisque c'est quand même dans le Val-d'Oise où je fais la majeure partie de mes dédicaces. Et comme il s'agit d'une tétralogie, donc maintenant j'en ai 4, qui relate donc une histoire qui se passe au XIe siècle, mais on va en parler,
on va en détailler ici.
En fait, les gens qui lisent le 1 et qui adhèrent à l'histoire et au personnage et à l'atmosphère, vont, dans certains cas, ou la plupart du temps, lire le 2, puis le 3, voire le 4.
Mais comment vous avez réussi finalement à vous imposer, à faire connaître ce premier roman en 2019?
Alors, un travail.
Parce qu'on peut dire que vous venez un petit peu de nulle part, même si vous avez une sacrée expérience professionnelle. Mais dans les nouvelles technologies, on vous connaît un peu sur le Val d'Oise. Après, il faut aller démarcher.
Dans les nouvelles technos, je suis entrepreneur. Donc, j'ai cette culture de savoir travailler un produit, entre guillemets, même si je ne veux pas assimiler un roman à un produit. Mais en fait, en moi, il y a deux choses. Il y a l'aspect écrivain, donc l'aspect créatif, au travers de mes passions pour l'écriture, pour l'art roman, pour le Moyen-Âge, pour l'ésotérisme aussi. Et en même temps, il y a cette culture de l'entrepreneuriat qui fait que très vite, j'ai compris que pour que mes produits puissent avoir un avenir, il fallait que je m'en occupe au même titre que c'était mon produit dans mon entreprise. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'au bout de 3 ans, j'ai monté ma propre société d'édition, de façon à promouvoir moi-même mes romans aujourd'hui. Et c'est ce que je fais au travers de nombreuses dédicaces que j'ai chaque année.
Qu'est-ce qui vous passionne justement ? Vous parlez beaucoup du Moyen-Âge, l'histoire médiévale. Alors, étant déjà plus jeune, vous aviez un attrait ?
Ouais, je suis rentré en fait d'abord dans le roman par l'art roman, donc l'art architectural, hein, donc avant le gothique et avant le pré-roman. Donc c'est une passion. Et quand j'ai voulu poser une histoire, Cluny, qui est l'apogée de la roman française, s'est vite imposé. Et en fait, j'ai choisi l'abbaye de Cluny, même si j'ai aucune attache familiale, donc en Bourgogne au sud, hein, où l'abbaye mère de Cluny a été construit. J'ai choisi la Bourgogne médiévale, donc c'est le comté de Mâcon à l'époque, c'est la Saône-et-Loire aujourd'hui, au niveau départemental. Et c'est un coin qui est absolument incroyable, parce qu'on retrouve la France un petit peu qu'on a connue lorsqu'on était petit. Il y a une atmosphère particulière. À Cluny, vous avez les plus vieilles maisons de France qui sont construites en pierre, qui reflètent les maisons du Moyen-Âge. Alors, les maisons riches, hein, du Moyen-Âge, puisque au XIe siècle, Cluny est un bourg monacal très riche. Il y a beaucoup de pèlerins qui affluent vers la grande abbaye de Cluny, qui est l'apogée de l'art roman français, mais qui est aussi la plus grande bâtisse jusqu'à la construction du Vatican et de Saint-Pierre de Rome. Donc c'est des moines qui étaient très puissants politiquement, mais en plus ce sont des moines qui avaient un savoir-faire religieux et architectural qui est hors norme. Cluny, ce sont des pieds romains et des pouces, c'est pas des maîtres. Et en fait, chaque pied romain à Cluny a une signification particulière, tant sur le plan religieux que sur le plan architectural.
Donc vous vous êtes posé durant plusieurs années à Cluny.
Alors, j'y étais plusieurs fois.
Et oui, plusieurs fois sur plusieurs années.
Oui, tout à fait. Bah, pendant 4 ou 5 ans, je me suis rendu sur place, visiter les lieux, les châteaux.
Discuter avec les pierres, abbayes, découvrir voilà, un peu leur histoire.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire aller chercher l'atmosphère d'un lieu, s'en imprégner, et c'est à partir de là seulement que vous pouvez, sur un roman, hormis la belle histoire et la belle intrigue que vous allez poser, et la documentation historique, reproduire cette atmosphère. C'est ça qui est très important pour moi.
Il y a un mélange de romance aussi, oui, un petit peu par moment. Alors, c'est le plus délicat, c'est compliqué justement, mélanger à la fois de la romance avec l'histoire. Non. Comment on tourne ça? On mélange les deux en même temps?
Non, parce que dans tout bon roman, il y a toujours une partie romance.
Oui.
Ça fait partie des codes du roman. Donc là, on reprend des recettes qui fonctionnent, parce qu'on a lu soi-même des romans. Donc en fait, moi, mes romans, je mélange 4 axes principaux. Et je me suis toujours tenu à ça et ça fonctionne assez bien. C'est d'abord l'axe historique, donc l'histoire avec un grand H, hein, c'est-à-dire que vous avez des personnages fictifs, c'est de la fiction, mais dans un contexte historique qui est très travaillé et très documenté autour du monde du XIe siècle. Le second axe, c'est l'axe aventure, hein, c'est-à-dire que pour que le roman soit intrigant, il faut une belle intrigue, des rebondissements, il faut un rythme, avec des chapitres qui sont assez courts, hein, donc ça c'est l'écriture moderne, moi mes chapitres font entre 10 et 15 pages, et il faut que ça soit un page-turner, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, on donne envie au lecteur de savoir ce qui va se passer ensuite. Le troisième axe, c'est la romance, comme vous le disiez. Donc en deux mots, là, mon Thomas, c'est l'histoire d'un jeune novice qui est donné à Cluny lorsqu'il a 11 ans. Alors il est d'origine noble, donc il s'apprête à faire une carrière ecclésiastique un peu contre sa volonté. On est au Moyen-Âge central, donc on donne des enfants pour faire des carrières. On le retrouve à 17 ans, c'est mon narrateur, donc mon personnage principal. Et là, il lui arrive 2 choses. La première, c'est qu'il tombe amoureux. Alors c'est l'axe romance, amour impossible. Il s'apprête à devenir moine professe, mais c'est la fille du seigneur voisin. Et il la rencontre dans des circonstances extraordinaires. Ça, c'est l'axe ésotérique du roman. Et donc, voilà. Donc, 4 axes. Romance, ésotérisme, aventure et histoire avec un grand H. Et je me suis toujours tenu à cette recette-là. Donc, c'est un mélange de ces ingrédients-là. Et c'est ça qui fait que je pense qu'aujourd'hui, le roman plaît un petit peu.
Et ce personnage de 11 ans qu'on va retrouver dans le premier roman qui s'appelle...
Ouais.
Il a 11 ans.
Il a 17 ans au moment du roman. En fait, il est donné lorsqu'il a 11 ans.
Mais il a 11 ans. D'accord, ok, pardon.
Et en fait, on le retrouve à 17 ans. Le roman commence lorsqu'il a 17 ans.
Donc, c'est le premier roman, c'est Les Étoiles d'Orion, ouais. Cluny 1095. On va le suivre, finalement, ouais. Cet adolescent, jusqu'à la fin, jusqu'au tome 4, Jérusalem 1099.
On va suivre certains des protagonistes du tome 1, parce que je veux pas spoiler l'histoire pour ceux qui voudraient la lire. Effectivement, j'ai un personnage principal, et ce sont les moines de Cluny, en fait, qui vont accompagner toute cette tétralogie. Alors, je pensais pas faire une suite, hein, puisque lorsque ce premier roman est sorti, donc on est en 2019, il dépasse tout de suite le cadre familial et amical, je m'en aperçois très vite. Au départ, je le mets sur une plateforme de édition, qui s'appelle Librinova. Alors, comme tous les primo-romanciers, j'ai essayé d'éditer, hein, en faisant le rêve de me retrouver chez Gallimard ou une autre maison prestigieuse. Bon, bah, j'ai pris, comme tout le monde, la lettre type. Quand vous n'êtes pas connu, quand vous venez de nulle part, il n'y a pas de raison que vous soyez édité, mais, sauf si vous faites un chef-d'œuvre. Mais les maisons d'édition reçoivent tellement de manuscrits chaque jour, au quotidien, on est vraiment un pays d'écrivains et de lecteurs, heureusement, que vous avez très peu de chances d'être édité la première fois, en tout cas.
Et vous choisissez cette plateforme pour vous faire aider ou
ouais,
pas?
Non, pas du tout. Alors, en fait, ça m'a donné une visibilité numérique.
Parce que c'est très tendance d'appeler, justement, le lecteur aussi à participer financièrement.
Alors, non, ça, je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas, parce que je ne pense pas que ce soit au lecteur à financer les écrits de leur auteur. Il y a d'autres façons de se financer aujourd'hui, notamment en faisant...
Bon, vous avez assez dans vos poches, en tout cas, pour... Alors, financer vos différents romans.
Ouais, tout à fait. Mais en fait, ils s'autofinancent aujourd'hui parce que j'en vends beaucoup. Donc, du coup, j'ai monté un système économique autour de ma maison d'édition. Comme toute maison d'édition, le but c'est pas de gagner de l'argent avec, puisque ça reste une passion. Mais au moins, c'est financer tous mes dépenses, tous mes coûts. Donc aujourd'hui, autour de mon label, enfin dans mon label, donc j'ai monté une société qui s'appelle les éditions Léo.
C'est à vous les éditions Léo.
Oui, tout à fait. En fait, c'est ma société. Et donc dedans, j'ai mon distributeur, j'ai ma correctrice professionnelle, j'ai un designer, j'ai un imprimeur français. Donc ce sont des fournisseurs, hein. Ce sont pas des salariés évidemment, mais c'est des gens que je fais travailler au fur et à mesure que je produis.
Mais c'était plus simple pour vous d'avoir la main aussi sur vos romans. Mais vous nous l'avez expliqué, quand on n'est pas connu, c'est pas forcément évident de démarcher Delcourt, Gallimard ou autre maison d'édition.
Vous pouvez le faire, mais il y a très peu de chances qu'ils vous répondent. Parce que
ils reçoivent énormément de manuscrits.
Voilà, et puis les éditeurs s'intéressent à leurs auteurs qui sont dits bankable, c'est-à-dire qu'ils vont leur apporter beaucoup d'argent, ce qui n'était pas mon cas. Alors ça sera peut-être le cas demain, puisque aujourd'hui, comme vous le disiez, je suis au musée du Moyen Âge, je fais des salons nationaux maintenant, donc je commence à avoir une notoriété qui dépasse le cadre local et régional. Mais ça se fait vraiment au fur et à mesure, puisque ça fait 10 ans que je travaille ça, et vous voyez que ça se construit pas comme ça du jour au lendemain. Donc moi, je suis plutôt sur une course de fond.
En tout cas, quand vous avez écrit ce premier roman, vous saviez que vous vouliez écrire la suite?
Non. Alors en fait, ça...
Même si là, aujourd'hui, effectivement, non. Quand je vais à la fin de ce premier roman, ça indique qu'il y aura un tome 2.
Vous avez en main la 11e édition. Donc, effectivement,
comment ça, la 11e édition?
En fait, le roman a évolué au cours du temps. Alors c'est toujours la même histoire, les mêmes lignes, mais la première version que j'ai sortie, en fait, elle était un peu plus originelle, elle n'était pas corrigée professionnellement. Donc tout de suite, j'ai vu que ça tenait pas la route d'un point de vue professionnel. Donc ensuite, j'ai fait comme on fait quand on est un éditeur professionnel, j'ai fait appel à un correcteur. Et aujourd'hui, tous mes romans sont travaillés au travers de 3 ou 4 corrections avec des allers-retours. Et ma correctrice, elle m'aide non seulement sur les aspects orthographiques et syntaxiques, mais également sur la ligne éditoriale et la cohérence. Et dans une maison d'édition, on fait comme ça avec les auteurs. Donc c'est un roman, c'est aussi un travail d'équipe. Il y a aussi une mise en page à faire, que ce soit sur les aspects numériques ou sur les aspects print, papier. Donc il faut être entouré. C'est pareil pour la couverture. La couverture, c'est fondamental. Si vous voulez vous démarquer un petit peu, que ce soit en librairie ou sur les plateformes numériques comme Amazon ou comme Fnac, il faut que vos couvertures, elles aient un look spécifique. Et surtout que quand vous êtes sur une série, qu'il y ait une charte graphique qui soit établie pour que les gens fassent tout de suite le lien entre un tome 1, un tome 2, un tome 3, un tome 4. Voilà. Donc on travaille ça comme on travaille aujourd'hui une publicité en marketing ou un packaging de produits.
À la fin, vous présentez les différents personnages. C'est assez original aussi.
Alors, en fait, non, il y a beaucoup de romans comme ça qui présentent à la fin les
différents personnages. Donc, on va directement à la fin pour découvrir ce qui nous attend dans le roman.
Tout à fait. La fin permet de savoir, puisque c'est de la fiction dans un contexte historique, faire le distinguo entre les personnages qui ont réellement existé. Par exemple, on est au XIe siècle, donc le pape Urbain II, il existait, l'abbé Hugues de Semur, il existait. Mes personnages les côtoient, et je fais le distinguo avec les fictifs, de façon à ce que les gens ne fassent pas « Ah bah lui, non, il n'a pas existé ou... ». C'est marqué et c'est repéré.
Voilà. Merci d'être avec nous. On va continuer à échanger avec Brice Nadin, romancier valdoisien de Saint-Leu-la-Forêt. Vous étiez en dédicace il n'y a pas tellement longtemps sur le Val-d'Oise, il y a quelques années aussi, parce que depuis toutes ces années, vous avez peut-être sillonné une grande partie du Val-d'Oise. Je crois que vous étiez au Touquet aussi il y a quelques jours.
Samedi, oui.
Donc ça, c'était cool. Ambiance plage, il a fait beau, il a fait chaud. Cocktail.
C'est surtout le rapport avec les libraires qui est fondamental. Alors le Touquet, c'est évidemment l'idéal d'y aller un 4 juillet, mais je fais beaucoup de librairies et j'essaie surtout de développer un rapport fort avec les libraires. En France, la librairie, c'est fondamental. D'ailleurs, les librairies sont en train de mourir à petit feu. Et on ne se retrouvera plus qu'avec des grands mégastores qui vendent de la librairie, mais de façon industrielle, ou Amazon en ligne. Et ça, c'est catastrophique, puisque les libraires aujourd'hui font vivre l'économie du livre, font vivre les auteurs, et font vivre aussi des tas de gens qui sont passionnés dans leur métier. Moi, je rencontre sans arrêt des libraires passionnés. Donc, ces gens-là, ils doivent exister. Ils animent notre centre-ville. Et c'est très important, en fait. Alors, donc, par rapport au Touquet, aujourd'hui, c'est grâce à la libraire du Touquet, qui a pris le temps de lire mon livre. Aujourd'hui, elle est capable de le préconiser. Elle a fait le lire à ses employés. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on cherche un roman historique qui parle du Moyen-Âge de façon un peu sensée et fondée, eh ben, ces gens-là sont capables de préconiser mon livre. Et ça, c'est fondamental.
C'est important, effectivement. Voilà. Ce que vous disiez, d'aller chez son libraire, au coin de chez soi, parce que lui, il a peut-être plus de connaissances, hein, parce qu'il s'intéresse, il lit, il bouquine, et il renseigne plus facilement le lecteur qui vient acheter, qui est un peu perdu des fois. Les gens sont passionnés de tellement de lectures, ils savent pas où aller. Et puis là, bah hop, on a reçu ce dernier roman. Pourquoi pas vous plonger dedans.
Doit être capable de convaincre ses lecteurs. Et dans les grandes chaînes libraires, ils sont pas toujours capables de le faire.
Non,
malheureusement.
C'est vrai.
Et donc deuxième étage de la fusée, le Touquet. Je participe au salon du Touquet depuis 4 ans. Donc c'est un grand salon régional qui a lieu au Touquet chaque année au mois de novembre. Et la Maison de la Presse m'y invite. Donc j'y vais 2 jours chaque année au mois de novembre. Et donc du coup, je me suis fait un lectorat sur la région Nord, Nord-Pas-de-Calais. J'ai enchaîné récemment avec le salon de Bondu, qui est également un grand salon national à Lille. Et là, au mois de septembre, maintenant, je passe la frontière, je suis à Mons et je serai à Bruxelles également en octobre et en novembre.
Merci d'être avec nous, Brice Nadin, sur IDFM Radio. Nous allons vous retrouver d'ici quelques minutes pour échanger sur les autres romans aussi, puisqu'il y en a 4 au total, hein, entre 2019 jusqu'à fin de l'année dernière. Ils sont sortis chez votre maison d'édition qui s'appelle Léo.
Les éditions Léo.
Voilà, les éditions Léo. On vous demandera qui est Léo, justement, dans un instant sur IDFM Radio. Brice Nadin est toujours votre invité aujourd'hui sur IDFM Radio. C'est la matinale, romancier. Il réside depuis 2003 à Saint-le-la-Forêt, donc c'est sur le Val-d'Oise. Vous êtes arrivé comment justement sur le Val-d'Oise, hein ? Vous êtes originaire un petit peu de l'Île-de-France, un peu partout aussi, de Saint-Germain-en-Laye, je crois, entre autres.
Né à Saint-Germain, j'ai grandi en banlieue dans les Yvelines. Et en fait, je travaillais sur Paris dans le 19e, donc j'ai habité Paris un temps, hein, comme la plupart des franciliens. Et puis quand les enfants ont commencé à devenir un peu plus grands, on s'est dit il faut trouver de la place, et on a trouvé Saint-Leu-la-Forêt. Et puis on a acheté une vieille maison.
Est-ce qu'il y avait le mot forêt ?
Ouais,
non,
ça joue énormément, surtout en ces temps de canicule. Donc voilà.
Ça fait plaisir, et donc pour l'instant, vous y restez, vous êtes bien pendant quelques années.
C'est propice à la création, on a plein d'écrivains à Saint-Leu, hein, notamment Le Gardinier, notamment Philippe Di Maria ou Gérard Pouettre, pour ne citer que...
Donc vous avez sorti 4 romans depuis 2019, le premier Les Étoiles d'Orion, le dernier Jérusalem 1099, qui est sorti en novembre 2025. Passionné d'écriture, de littérature aussi, depuis très jeune. Ouais. À l'école, vous étiez déjà très bon.
En histoire géo, oui. C'était vraiment les matières que je préférais, donc ma passion pour l'histoire date de là aussi, je pense. Ouais.
Et l'histoire plutôt médiévale, moyenâgeuse. Et puis après, bon bah ça va avec les religions.
Alors c'est surtout l'histoire des religions, l'ésotérisme, et puis aussi la puissance politique de ces moines au Moyen Âge. Donc d'ailleurs c'est le fil rouge du roman, hein, puisque en fait du premier tome,
c'est un monastère, on est
dernier,
dans un monastère.
Alors, on est dans l'abbaye de Cluny,
oui, l'abbaye de Cluny,
qui en 1095 est la plus grande abbatiale de tout l'Occident chrétien, et surtout la plus puissante, puisque à l'époque il y a 1000 prieurés et abbayes de tutelle qui reportent à l'abbaye mère. À Cluny, en Bourgogne.
Abbaye, monastère, c'est à peu près la même chose ou pas, non ?
Tout à fait. Alors, oui. C'est un terme similaire. À Cluny, on a une église abbatiale qui est immense par ses dimensions. C'est l'apogée de l'art roman français. Donc, malheureusement, ça a été détruit à la Révolution française. Mais pendant très longtemps, Cluny, c'est la plus grande église du Moyen-Âge jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome et du Vatican.
Il y a une sacrée histoire aussi ici avec l'abbaye, entre autres de Maubuisson. Vous l'avez déjà.
Oui, bien sûr.
Alors, vous avez déjà été sur les lieux de cette abbaye.
C'était démonial. Et puis, on a Royaumont aussi, où il y avait des moines.
Oui, aussi, c'est vrai.
Mais alors, ce sont des abbayes qui sont un peu plus tardives, hein, puisque là, on est chez les cisterciens. Cluny, ce sont des bénédictins, donc c'est l'ordre de la règle de Saint-Benoît.
Ah, désolé, moi, je ne saurais pas faire la différence. Hein, mais...
Oui, oui.
Mais en fait, vous, voilà, vous êtes en train de nous le dire, de toute façon.
Voilà. Et puis, on découvre ça dans mes romans, donc.
Oui, voilà. Oui, parce que ces romans, c'est comme on a dit, mais c'est basé aussi sur des faits qui se sont réellement déroulés. Il y a de l'histoire racontée à travers ces quatre romans. Le deuxième, donc, s'appelle Mare Nostrum, qui est sorti, quelques années après. Ça n'a pas été une grosse difficulté. 2022, vous proposez ce deuxième roman, qui est la suite des Étoiles d'Orion. Ouais. Parce que il y a eu le Covid, parce que il y a eu d'autres choses aussi dans votre vie qui ont fait que le roman n'a pas pu sortir tout de suite.
Non, parce que d'abord le 1 a fonctionné et puis comme tout le monde j'avais un travail donc je pouvais pas me projeter tout de suite dans l'écriture d'un second roman. Donc j'ai pris mon temps et en fait ça donne ce second roman où on retrouve mes moines copistes du tome 1 cette fois dans un périple autour du monde du 11e siècle. Donc la Mare Nostrum des Romains hein, puisque le monde médiéval se résume grosso modo à la Méditerranée à cette époque. En référence aux cartes en cartentée, d'ailleurs qu'on trouve dans les deux romans, j'ai mis la BNF m'a donné une carte qui montre la vision occidentale du monde à cette époque. Les cartes sont orientées, c'est-à-dire que c'est pas le nord qui se trouve en haut de la carte, c'est l'Orient. Et on oriente les cartes au Moyen-Âge comme on oriente le chevet des églises, avec Jérusalem comme centre du monde à la fois spirituel mais aussi physique. Donc la Méditerranée, en fait, qui figure une sorte de hampe de thé, nous conduit à Jérusalem. Il n'y a que trois continents à cette époque, l'Europe, l'Afrique, la partie connue jusqu'au Sahara, et l'Asie, la partie connue jusqu'à l'Indus. Au-delà, on ne sait pas ce qu'il y a. Par contre, on sait que la Terre est ronde à cette époque, puisque les moines, ce sont des savants. Dans le Septivium, les sept arts libéraux qu'on pratique dans les monastères à cette époque, on trouve l'astronomie. Donc les moines connaissent le ciel, ils ont étudié Ptolémée, ils ont étudié Aristote, ils ont étudié Saint-Augustin, et ces trois-là disent pertinemment que la Terre est ronde. Donc par contre, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de l'océan. Voilà. On pense qu'il fait trop chaud pour y vivre. Il faudra attendre la fin du Moyen-Âge, la découverte de l'Amérique, pour savoir qu'il y a d'autres continents que les trois qu'on connaît au Moyen-Âge central.
Vous avez beaucoup observé le ciel aussi ?
Oui, alors Orion joue un rôle particulier dans l'intrigue du roman, parce que comme je le disais, les moines sont férus d'astronomie, ils l'étudient, donc la constellation d'Orion. D'ailleurs, Orion, Léo, l'édition Léo, ça veut dire les étoiles d'Orion. C'est bon, ça, voilà. Les initiales.
Vous avez répondu, je voulais vous poser la question, mais vous m'avez rattrapé, mais c'est pas grave.
Et donc, Mare Nostrum, en fait, mes moines, dans le tome 2, ils partent en mission pour préparer la croisade qui s'annonce. Donc, mission d'espionnage, sous couvert de chasse aux manuscrits anciens, puisque ce sont des moines copistes, mais tout se passe mal. Et on les retrouve d'abord à Pise, au moment où c'est la première république consulaire de l'Occident chrétien. Ensuite, on est à Malte et on finit au Caire. À l'époque, le Caire, c'est la plus grande ville du monde musulman. Il y a plus de 150 000 personnes, où on trouve à la fois des chrétiens qui sont coptes, des juifs, mais aussi des mahométans. Donc c'est la première ville où il y a déjà un creuset culturel de religion qui est très important. Et les moines occidentaux, en fait, quand ils arrivent au Caire, ils vont avoir pour la première fois la vision d'un monde qui leur est complètement étrange, complètement nouveau, et ça préfigure la croisade qui arrive. Et dans le tome 3 et dans le tome 4, donc le dernier sorti, donc le tome 3 s'appelle l'Oracle de Constantinople. En fait, là, on est sur les traces de Godefroy de Bouillon et de Pierre l'Ermite jusqu'au cœur de l'Empire byzantin, qui est l'autre puissance de l'époque à Constantinople. Et en fait, c'est l'épisode historique de la croisade populaire. Lorsque le pape Urbain, qui est un ancien clunisien, va prêcher la croisade à Clermont, lui, en fait, il demande aux gens dont la guerre est le métier, donc les chevaliers, les seigneurs, d'aller combattre pour Jérusalem. En réalité, ce qui va se passer, c'est que ce sont des prédicateurs qui, après la prêche d'Urbain, vont s'emparer du phénomène de la croisade et inciter des pauvres gens à prendre la route sous couvert d'indulgence pour aller délivrer Jérusalem. Et là, ça va être une catastrophe, puisqu'on envoie sur des routes incertaines des gens qui n'ont aucune connaissance géographique, qui n'ont aucun moyen financier. Donc ils vont traverser toute l'Europe, toute la Rhénanie jusqu'à Constantinople. Pour survivre, ils vont devoir commettre des massacres. Et lorsqu'ils vont arriver à Constantinople, l'empereur byzantin du moment, pour qui on est des barbares, hein, les occidentaux, pour les Grecs de l'époque, ce sont ceux qui ont fait chuter Rome. Et les successeurs des Romains, ce sont eux. Et les chrétiens, ce sont eux. Nous, on est juste des barbares, incultes. Et quand il voit ces hordes de pauvres gens arriver sous les murailles de Constantinople, il va se dépêcher de leur faire traverser le Bosphore, et là, ils vont se faire massacrer par les Turcs. Sur 40 000 personnes, il y en aura à peu près 4 ou 5 000 qui vont survivre.
Finalement, il y a beaucoup de thématiques abordées aussi à travers ces différents ouvrages. Hein.
Oui.
C'est thriller, c'est fantastique.
C'est du roman. Donc en fait, tout le monde y trouve un petit peu son compte, mais toujours avec une ligne éditoriale qui ne dévie pas, c'est-à-dire que c'est pas du n'importe quoi, c'est assez travaillé pour que justement on retrouve toujours les aspects fiction. Donc ce sont des personnages qui ont leurs aventures propres, hein, c'est pas l'aventure de la croisade, c'est leurs aventures à eux, mais dans le monde de la croisade.
Mais finalement, vous pouvez attirer beaucoup de public aussi.
Ouais. Ouais, parce qu'il y a l'aspect romance et il y a aussi l'aspect ésotérique. Donc du coup, ça permet à plein de gens de se retrouver, de trouver des centres d'intérêt.
Vous le voyez en tout cas quand vous êtes en séance, ouais. Ou les gens qui vous contactent via les réseaux sociaux.
J'ai des jeunes de 10 ans qui s'intéressent à mes romans parce qu'ils ont appris l'Empire byzantin et la croisade en 5e, en 6e. Et
donc, oui, mais comment ils ont découvert du coup le roman? Grâce à leur prof ou pas?
Non, ils sont avec leurs parents en dédicace, ils passent dans la librairie. Moi, je fais le pitch aux parents, puis les enfants sont là. Ah, mais lui, je le connais, Alexis Comnène, on en a parlé cette semaine à l'école. Donc du coup, la maman va acheter le roman à l'enfant. Voilà, ça se dit facilement. Et puis j'ai des lecteurs de tout âge, de toute catégorie sociale. Il y a beaucoup de gens, et ça me fait vraiment plaisir, qui reprennent goût à la lecture en lisant ces livres, parce qu'on redécouvre un pan entier de notre histoire. Hein, au 11e siècle, la France n'existe pas. C'est le royaume des Francs. Le roi de l'époque s'appelle Philippe Ier, c'est le 4e Capétien. Il n'a aucun pouvoir politique. Et c'est le siècle où le pape va s'affirmer comme chef de l'Église catholique romaine. Avant le 11e siècle, le représentant de Dieu sur Terre, ce n'est pas le pape, c'est l'empereur romain germanique, le descendant de Charlemagne. Et c'est lui qui distribue l'investiture aux évêques. À partir du 11e, et à partir de la prise de Jérusalem par les croisés et de ce qu'on appelle la querelle des investitures en histoire, le schéma s'inverse. C'est le pape qui devient le personnage politique majeur de son temps, qui devient le chef de l'Église catholique romaine, et c'est lui qui distribue l'investiture aux évêques. Les évêques, je vous rappelle, qui nomment le pape, ensuite dans les conciles. Voilà. Et donc là, il y a un tournant majeur dans notre histoire occidentale. Et tout se joue dans ce 11e siècle, il y a un siècle où il y a un renouveau de la foi chrétienne, c'est le siècle des grands pèlerinages, le siècle de la construction de toutes les grandes églises romanes qu'on a encore sur le territoire. Ça va se traduire par un pèlerinage armé qui sera la croisade. Donc c'est une guerre, on va pas se mentir. Il va y avoir des massacres. Par contre, la croisade aura un bienfait, c'est que lorsqu'on aura pris Jérusalem, on va s'ouvrir, grâce à 200 ans de présence latine dans les États latins, on va s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres croyances, d'autres façons de manger, d'autres façons de s'habiller, et ça va permettre un essor économique qu'il n'y aurait pas eu s'il n'y avait pas eu la croisade. Les grands ports italiens s'ouvrent à partir de la croisade, Pise, Amalfi, Gênes, Venise un peu plus tard, et leur essor est dû essentiellement aux échanges qu'on aura avec les comptoirs orientaux qu'on aura ouverts à partir de la croisade.
Vous faites des fois des conférences, parce que oui. Vous êtes quand même passionnant, vous savez
Alors,
très bien ce que vous abordez dans vos différents romans.
Alors j'ai commencé bénévolement à Saint-Leu en faisant des petites conférences pour les associations historiques ou les retraités. Et aujourd'hui, je propose un format de conférence aux universités du temps libre un peu partout en France. Voilà. Uniquement sur la puissance de Cluny au XIe siècle ou la Jérusalem 11e aussi, puisque j'ai eu la chance d'aller à Jérusalem et de visiter cette ville incroyable. Donc ça, c'est l'objet du tome 4.
Merci beaucoup, bravo en tout cas. Les Étoiles d'Orient, c'est le premier. Le dernier s'appelle Jérusalem 1999. Bon, le premier s'appelle quand même aussi Les Étoiles d'Orient Cluny 1095, exactement. Entre Lia Mare Nostrum et l'Oracle des Constantinople, Les Étoiles d'Orient. Donc c'était aussi Les Étoiles d'Orient sur le deuxième tome.
En fait, c'est devenu la marque générique.
Bon, voilà, les étoiles sont un peu partout, de toute façon à travers les quatre romans. Certains lisent le premier, le deuxième, dans le désordre. C'est mieux de lire quand même l'un derrière l'autre.
Il vaut mieux les lire dans l'ordre. Mais après, moi, ça m'est arrivé de lire beaucoup de sagas historiques en découvrant un tome par hasard et en pénétrant dans l'univers de l'auteur par un tome. Et puis après, j'ai lu un peu dans le désordre. Moi, j'aime bien ça. Après, je conseille quand même de les lire dans l'ordre. Mais en dédicace, il y a beaucoup de gens qui ont un attrait particulier pour Constantinople, Istanbul aujourd'hui, ou pour Jérusalem. Oui. Hein, Jérusalem, ça marque forcément les esprits. Alors le 4, j'en vends beaucoup parce que Jérusalem fascine. Et c'est une ville dans laquelle il y a la présence du sacré énorme, quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez. Et donc j'ai beaucoup de gens qui achètent le 4 sans avoir lu les trois premiers, ou offrent le 4 parce qu'ils veulent faire un cadeau à quelqu'un.
Merci encore d'être passé aujourd'hui sur IDFM Radio, Brice Nadin, romancier sur la commune de Saint-Leu-la-Forêt. Donc le dernier, Jérusalem 1099, est disponible depuis novembre dernier. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram,
Instagram, Facebook.
Il y a peut-être aussi même un site consacré à votre maison d'édition, Léo Édition. Non, vous avez
juste une boutique en ligne. La maison, elle est juste là pour fédérer la partie entreprise, si vous voulez, mais elle n'a pas
pour
vocation.
Encadrer.
Voilà. Si, le jour où j'éditerai d'autres romanciers, peut-être, mais là, c'est pas le cas. Donc, c'est juste une marque juridique, on va dire.
Merci encore d'être venu parler de votre saga historique au cœur de la première croisade de Cluny à Jérusalem sur IDFM Radio. Bonne journée,
merci,
bonnes vacances.
Merci.